Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, émission Livres et Amis du 23 mars 2022. La semaine dernière, nous vous avons emmené dans l'histoire immédiate avec l'ouvrage sociologique de Julie Pagès, Mai 68, un pavé dans leur histoire. Et ce livre très riche qui abonde en témoignages passionnants et difficiles à découper, c'est lui aussi un véritable pavé. C'est pourquoi nous y revenons cette semaine avec des témoignages un petit peu différents, en fait, pour donner la parole à d'autres témoins qui nous racontent leur mai 68 et la suite de leur vie bouleversée par les événements. Mais avant, un mot sur un spectacle qu'on peut voir cette semaine à Marseille, présenté à la Criée les 24, 25 et 26 mars. Il s'agit de Fraternité de Caroline Guéla Nguyen. Fraternité, c'est un peu 50 ans après comme un héritage 21e siècle des communautés de 68 arts. Alors revenons maintenant à nos 68 arts et à la question posée par Julie Pagès pour faire le lien entre l'émission de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui. Devient-on révolutionnaire parce que l'on participe très activement à une crise politique ou bien participe-t-on activement du fait qu'on avait des engagements à l'extrême-gauche préexistants. Donc, on a commencé à répondre à ça. On va essayer de voir les témoignages de façon plus précise. Et avant de revenir à ces témoignages, peut-être un petit rappel du décryptage des sigles de mai 68. Chacun connaît bien sûr les principaux syndicats de salariés. Ajoutons l'UNEF. L'UNEF, vous vous en souvenez, c'était et c'est toujours le syndicat étudiant qui a pris le leadership en mai 68 dans les événements dès mars à Nanterre et dans d'autres universités. Et en fait, l'UNEF, très vite, au sein du mouvement, va se détacher, vont se détacher des tendances internes. Du côté des partis, en plus des partis de gauche de l'époque, le PC et le PSU, il faudrait ajouter les ML, c'est-à-dire les marxistes-léninistes, qui vont constituer à partir de l'été 68 la GP, la gauche prolétarienne, puisqu'en fait, par exemple, le JCML, comme d'autres, sont dissous en juin 1968. La gauche prolétarienne, elle, va être interdite en 1970 et elle s'auto-dissoudra en 1973. Ajoutons aussi les trotskistes avec la JCR, qui est interdite en juin 68 aussi, mais qui se reconstitue autour de l'hebdomadaire rouge et ensuite au sein de la Ligue communiste. Mais d'abord, donc, puisque nous revenons au témoignage, écoutons l'histoire de Paul.
Paul, né en 1947, est fils d'un instituteur et d'une employée, tous deux communistes, anciens résistants et athées. Il s'inscrit en histoire à l'université de Grenoble en 1964, adhère à l'UEC l'année suivante, pour en devenir rapidement le responsable grenoblois. La figure de Louis Althusser et la lecture de ses ouvrages le font évoluer vers les positions hétérodoxes de l'UJC-ML. Il milite parallèlement à l'UNEF à partir de 1966, avant de devenir l'un des responsables locaux du syndicat étudiant au moment où débutent les événements de mai 68. On était très favorable au mouvement, donc on a fait des tracts unitaires et on a réussi à mettre les staliniens en minorité et l'Assemblée Générale de Grenoble, l'UNEF, est devenue la base du mouvement. Donc être dans des contacts intersyndicaux dès le départ donne un rôle clé à l'UNEF. Une des premières choses que l'on ait faites, c'est un tract destiné aux entreprises de Grenoble pour expliquer le mouvement étudiant et appeler au lien avec les ouvriers. Il sera particulièrement difficile d'obtenir de Paul un récit personnel de ses pratiques militantes quotidiennes, car c'est principalement au nom d'organisations qu'il s'exprime. Au début, l'objectif, c'était de mettre l'UNEF au service du mouvement, quoi. Et là, j'ai ma casquette UNEF. On organise les manifs anti-répression, le problème principal étant de ne pas arriver trop vite à la préfecture, vu qu'elle est en face de la fac d'histoire. Et bon, il n'y a pas de pavé à Grenoble, donc on tient compte des chantiers dans la ville pour faire les trajets des manifs, pour avoir du matériel pour se défendre. Mais dans le fond, on sait aussi que si l'on peut se frotter aux forces de l'ordre, ça serait très bien. Les propos de Paul mettent en lumière un usage de la répression par les organisateurs pour susciter et canaliser l'indignation en faveur de la cause collective. Comment vous dire ? Tout cela allait tellement vite. Entre les manifs anti-répression qu'on a organisés au départ, puis l'explosion libertaire, puis la grève générale, on a du mal à suivre. On fait comme ça vient. La connaissance du milieu étudiant grenoblois, tout comme ses compétences de syndicaliste étudiant, confèrent rapidement à Paul, après l'explosion des grèves, un rôle de passeur entre le milieu étudiant et le milieu ouvrier. À partir du 13 mai, je prends ma casquette ML. Et notre participation, c'était du soutien à la grève générale. On suivait la grève dans des différentes usines, Lustucru, Nerpic. C'était une usine d'électromécanique. On avait des groupes qui allaient dans chaque usine. Moi, je suis allée aider les copains à intervenir dans les groupes de portes, mais plus au niveau logistique, Tract, Ronéo, dans les facs, puis entre les Beaux-Arts et les locaux de l'UNEF. Si l'on dressait une carte de ses activités militantes, elle serait marquée par la pluralité des lieux d'engagement et davantage encore par les déplacements entre ces lieux. Or, ce registre de participation, plurilocalisé, symbolise la jonction des luttes étudiantes et ouvrières à laquelle Paul aspire en mettant ses compétences militantes à la disposition des groupes ouvriers les plus radicaux. C'est d'ailleurs une expérience vécue de décloisonnement social qui conduit Paul à produire le récit plus personnel de notre entretien. Une délégation de prolos d'une usine en grève, menée par un ingénieur CFDT tendance autogestion, est venue à la fac d'histoire voir les étudiants. Et ils nous ont demandé de venir dans leur village. On y est allé et ça a été assez incroyable. Ça ressemblait à une mythologie de 1936 ou de 1917. On débarque dans un village et tout le village est sur la place pour attendre les étudiants. Ils nous demandent les consignes, quoi. Et je me rappelle faire un discours genre front populaire avec tout le monde super remonté qui crie et applaudit. C'est dur à décrire cette expérience. Euphorisant, oui, complètement euphorisant. On prend au sérieux le côté insurrectionnel après plus d'une semaine de grève générale. Comment dire ? On sait très vite que ça ne sera plus jamais comme avant. On sait qu'on fait la révolution de mai, un peu comme la révolution française. Et là, devant ces ouvriers du village, nos paroles ont comme des effets de paroles magiques. Donc pour des gamins, c'est fascinant. Cette expérience euphorisante, par son caractère transgressif et performatif, Paul parle d'effets de paroles magiques et par la découverte d'une autorité charismatique reste essentiel pour saisir comment l'événement politique agit sur Paul. En effet, son exposition intensive à la crise politique résulte de son passé militant, mais l'expérience pratique des événements et en partie l'approbation de ses prises de position par de nombreux ouvriers réunis participe de sa radicalisation. Paul arrête en effet ses études peu de temps après, avant de s'établir en usine. Pour continuer, retrouver mes 68.
Oui, ça, l'autrice le souligne plusieurs fois. C'est vraiment l'engagement de personnes déjà politisées, déjà militantes, qui s'engagent donc dans des actions d'autant plus sur le terrain qu'ils connaissent déjà le principe et l'action de l'engagement. Donc, les événements de mai 68 jouent, par exemple, pour Paul, un rôle de socialisation, d'entretien, de dispositions et de convictions militantes préexistantes. Par contre, chez les enquêtés plus jeunes, n'ayant pas ou peu d'expérience militante en amont de mai 68, il y a un certain nombre d'événements qui se croisent à un moment. Ils sont dans l'indétermination, ils sont à l'âge de l'indétermination sociale, familiale ou politique, et c'est ce qui les rend plus sensibles et c'est ce qui va jouer pour eux dans le temps court de la crise. En fait, mai 68, pour ces enquêtés les plus jeunes, se trouve à l'origine de transformations biographiques conséquentes et de ce qu'on peut appeler une socialisation de conversion. Les modalités de ces inflexions biographiques majeures sont multiples, on l'a déjà vu, de l'établissement en usine à la rupture familiale, conjugale et éventuellement professionnelle, après l'investissement dans les mouvements féministes ou dans le gauchisme contre-culturel. Donc, Julie Pagis nous montre ici qu'il existe un certain continuum de situations caractérisées par des inflexions biographiques d'ampleur croissante. Disons que dans ces inflexions, l'événement est déclencheur d'une socialisation de prise de conscience et peut-être à l'origine de transformations radicales. On peut d'ailleurs parler avec elle de ce qu'est la contre-culture. La contre-culture, c'est, une façon de ne pas se plier au moule de la culture, entre guillemets, bourgeoise traditionnelle. Et c'est ce que choisiront beaucoup des militants ou des engagés dans mai 68. Voyons un autre témoignage.
Alain est né en 1947 à Nantes. Son père, ancien mousse sur les remorqueurs, connaît une forte mobilité sociale au sein de la compagnie nantaise de remorquage qu'il finit par diriger en fin de carrière. Et sa mère, fille de mécanicien à la SNCF, se consacre à l'éducation de ses trois enfants. Ils sont tous deux catholiques pratiquants, votent à droite et ne parlent pas de politique dans la sphère familiale. Après avoir obtenu son CEP en 1962, Alain passe un CAP de pâtissier. Il est ouvrier spécialisé à la biscuiterie de Nantes en 1968. J'étais à la fabrication de la pâte. On faisait des boudoirs, des chocobéennes qui se vendaient très bien à l'époque et des biscuits pour les États-Unis, pour l'Europe. Alors, mai 68, c'était un peu la rigolade, la fête, quoi. On a fait la grève et on a occupé l'usine. On a suivi le mouvement, quoi. Vous vous rappelez, quand la grève a commencé, comment l'occupation a été décidée? Non, on a suivi. Il y avait plusieurs usines qui s'étaient mises en grève et donc on a tout arrêté et on a organisé l'occupation jour et nuit de l'usine. Comme on avait arrêté de travailler, on mangeait ensemble, on s'est beaucoup parlé, ça c'est sûr, et après c'était plus pareil. Mais bon, moi... Faut préciser que je me suis mariée le 1er juin, donc vous voyez. Et vous étiez syndiquée? Oh non, non, moi je débutais, hein. J'avais 21 ans, j'étais OS, j'étais pas du tout politisée, hein. Mon père était de droite, moi ça m'intéressait pas trop. Mais je trouvais que c'était bien ce qu'ils proposaient les syndicats, ceux qui organisaient le mouvement, quoi. Je trouvais qu'il y avait besoin de ça. Mais moi, je ne participais pas aux réunions politiques et syndicales, non. Alain se souvient d'une vie collective joyeuse au sein de l'usine occupée, des repas partagés, de longues discussions, de quelques barbecues collectifs, mais s'avoue bien incapable de décrire les revendications portées par les ouvriers, l'organisation des tâches militantes au sein de l'usine, le nom des syndicats qui organisaient l'occupation ou encore la durée de la grève. Son mai 68 se cantonne à l'usine, située à 10 km de Nantes, et s'il fait grève et acte de présence pour assurer l'occupation, il ne participe à aucune manifestation au cours des événements, notamment par crainte des affrontements. Alain s'est syndiqué à la CFDT à l'issue de la grève, comme nombre de ses collègues. On s'est beaucoup syndiqué après le mouvement, ça nous a fait nous rendre compte quand même les revendications, le travail des syndicats. Vous diriez que ça vous a politisé de participer à cette occupation? Oh ben oui, disons que c'était vraiment une expérience et que bon, Mon père était de droite et moi après, j'ai été de gauche et j'ai toujours été de gauche après. Ça a joué et puis j'étais jeune. Mais c'est vrai que la conscience d'être ouvrier, c'est venu un peu de là, je pense. L'occupation contribue ainsi, par les rencontres sur le lieu entre militants et jeunes ouvriers non syndiqués, par la participation aux tâches collectives et par les discussions, à une formation politique accélérée des moins politisés. Ces formes peu canoniques de participation aux événements ont eu des effets notoires de prise de conscience politique. Si certains découvrent l'existence des syndicats, à l'image d'Alain, d'autres découvrent celle de la gauche.
Alors, après le témoignage d'Alain, celui de Paulette. Paulette, née en 1946 dans le Finistère Sud, est la cinquième d'une fratrie de 7 enfants. Sa mère, issue d'une famille agricole catholique bretonne, se marie avec un fils d'agriculteur d'une famille de 9 enfants, bachelier, devenu militaire. Scolarisée dans une école catholique, Paulette reçoit une éducation religieuse extrêmement stricte. Son père élève les enfants à la baguette, après avoir répudié l'aînée de ses filles qui était tombée enceinte hors mariage. Alors, j'ai été élevée dans le bien et le mal était incarné par notre grande sœur que notre père nous avait interdit de revoir. C'était terrible. Après avoir obtenu un CAP de couture, Paulette s'inscrit dans une formation d'auxiliaire de puériculture à Nantes, où son père a été muté. Elle a alors 18 ans, suit une année de formation à l'hôpital, et même encadrée par des religieuses, elle commence à travailler 2 ans plus tard. J'ai tout découvert à 18 ans, car avant, tout était tabou. La sexualité, les relations, je me connaissais, mais je ne connaissais rien à l'anatomie. Et dans ma famille, la politique, c'était pareil. Il y avait une évidence, De Gaulle, président. Bon, j'étais née au sortir de la guerre, mon père était dans la résistance, et après, c'était papa qui disait, et tout le monde suivait, quoi. Le maire du village, c'était le châtelain, évidemment un homme de droite. Et ça, jusqu'à ce que tout explose, en 1968. Je ne savais même pas politiquement qu'il pouvait y avoir autre chose que cette droite en place. De Gaulle, militaire en plus, mon père étant militaire, on n'aurait jamais eu l'idée de le remettre en question. Donc, en 68, j'avais déjà découvert l'hôpital et j'ai continué à découvrir tout ce qui se passait, en particulier le rôle des syndicats. J'ai découvert politiquement qu'il y avait autre chose que ce que notre père nous disait. Et plus rien n'a été pareil. Même s'il nous empêchait de sortir ou d'aller aux manifestations, j'ai fréquenté des collègues syndiqués, j'ai découvert qu'il y avait le communisme, et tout ce qui était tabou avant, on s'est mis à en parler. Nous, à la maison, les communistes, on disait les rouges. Alors, quand mon père parlait des rouges, évidemment, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Et puis, en fait, tout a changé, puisque jusqu'à là, le communisme, c'était le diable. J'ai vu que c'était pas tout à fait ça. Peut-on dire que Paulette participe aux événements de mai-juin 68 à Nantes? N'est-elle pas davantage une spectatrice un peu apeurée? En tout cas, la jeune femme discute néanmoins avec ses collègues syndiqués à la CFDT, qui lui offrent un cadre d'analyse politique de désajustement qu'elle vit justement sur un plan personnel. C'est vrai qu'il y avait dans leur discours beaucoup de convergences avec les injustices, les inégalités que j'avais déjà ressenties et que j'ai vues aussi dans le travail. Plusieurs d'entre elles sont devenues des amies et c'est par le réseau de sociabilité syndicale qu'elle a rencontré l'année suivante son futur mari, Lucien, sympathisant communiste, qui avait participé à la grève en tant qu'OS dans un supermarché. Bien que simple spectatrice, en 1968, Paulette a découvert l'existence de la politique, l'existence de la gauche, et elle s'y est ralliée dans les mois qui ont suivi. Cette orientation politique persiste jusqu'à aujourd'hui, l'éloignant du reste de sa famille. Donc, ici, c'est vraiment une prise de conscience politique qui s'est effectuée. On va voir maintenant le témoignage de Marie.
Marie, née en 1951 à Toulouse, est la cadette de 3 enfants. Ses parents, catholiques pratiquants, sont tous deux professeurs agrégés, syndicalistes proches du Parti Socialiste Unifié, PSU, tandis que les 2 aînés sont des élèves brillants, Marie n'est pas jugée assez intelligente pour faire des études universitaires. Son récit des événements commence, étonnamment, par l'implication des autres membres de sa famille. Le plus frappant pour moi, en 1968, c'est que tous les membres de la famille y ont participé. Mon grand frère à la fac, ma sœur aussi, mes parents dans leur lycée, en faisant grève et en soutenant les élèves, moi en terminale, et même ma grand-mère, qui vivait au rez-de-chaussée, soutenait oralement les manifestants en rentrant de sa messe. Donc le soir, chacun racontait sa journée, tout en sachant que dans la famille, il n'y a pas eu de révolution. Ce qui m'a intéressé en 1968, c'est de me rendre compte que les élèves désignés comme des cancres se révélaient des leaders, capables de s'exprimer, de revendiquer, d'organiser l'occupation, alors que les bons étaient en retrait. Marie bat le pavé à quelques reprises dans Toulouse, assiste depuis son balcon aux affrontements entre fachos et gauchos en comptant les points, mais c'est à sa première relation amoureuse que mai 68 restera associé dans sa mémoire. Pour moi, 1968, c'est plus une question d'ambiance, quelque chose de nouveau, de porteur. C'est impossible de le dissocier de ma première grande histoire d'amour que je vivais en parallèle avec un garçon de ma classe. Ça faisait résonance, c'était exaltant. C'est dur à décrire, les deux étaient confondus. La relation amoureuse et sexuelle avec le mouvement de mai 68, c'était un tout. Et ça, c'était mon moyen de m'opposer à mes parents. Vous aviez déjà eu des relations sexuelles avant les événements ? Non. Faut dire que j'étais très surveillée en temps normal. Et là, il y avait beaucoup moins de surveillance au niveau des horaires et ça nous a permis de trouver des moments où s'échapper sans être pris. 1968, c'est aussi les premières fois où je suis allée dans les cafés. Donc, 1968, c'était porteur d'énormément d'enthousiasme, de plaisir.
Donc ici, bien sûr, dans le cas de Marie, on retrouve un certain nombre d'images de mai 68, c'est-à-dire à la fois la prise de conscience politique et la liberté trouvée par des adolescents qui échappent à la surveillance familiale ou à leur milieu. On va aussi trouver ce type de choses dans le témoignage de Louis. Alors, Louis, il occupe son lycée à Nantes en mai 68 et ses propos décrivent une forme de prise de conscience politique liée aux rencontres et aux échanges inhabituels. La libération de la parole. Oui, c'était très fort. Et c'était la prise de conscience de tout un tas de choses qui s'est faite d'un seul coup. Plein de gens qui avaient plein de choses à se dire et à dire de façon générale, y compris par rapport à leur vie. C'est qu'en fait, d'un seul coup, on a compris qu'on vivait dans un monde, un milieu, une société qui était écrasante. Il y avait plein de tabous, plein d'interdits, et on en avait tous fait l'expérience, bien sûr. Je dirais au quotidien, la prise de parole, à ce moment-là, c'était une analyse collective de tout ça. Et les gens comprenaient en écoutant, ils comprenaient même en le disant, j'en suis sûre. Il y a des gens, au fur et à mesure qu'ils disaient des trucs, ça leur venait spontanément. Et en parlant, en fait, ils analysaient ce à quoi ils n'avaient jamais réfléchi auparavant. Ces propos de Louis correspondent à ce que Pierre Bourdieu nomme le schéma de politisation propre aux crises politiques, ainsi que la dialectique avec la crise personnelle. Ces ruptures d'allégeance aux différentes formes d'autorité, parentale, masculine, scolaire et prise de conscience politique, bien sûr. Cette socialisation et même cette socialisation de conversion, on va la retrouver avec le témoignage de Gérard.
Gérard, né en 1948 à Toulouse. Le père de Gérard, réfugié de la guerre d'Espagne, devenu ingénieur en France, et sa mère, issue d'une famille bourgeoise provinciale, ont tous deux participé à la résistance dans les réseaux protestants. C'est par sa sœur aînée, Mireille, qui est dans la même classe que Daniel Ben Saïd, au lycée, que le virus gauchiste est entré dans la famille. Celle-ci, militant à la JCR dès 1967. Sans être militant lui-même, Gérard se retrouve néanmoins à côtoyer lycéens, certains cercles de sociabilité liés à la JCR. Après la création du mouvement du 22 mars, on a senti le besoin de faire un peu pareil à Toulouse. Et donc, il y a eu le mouvement du 25 avril, moins connu. On a décidé d'occuper le lycée. Bon, j'étais un peu le catalyseur dans un premier temps, parce que justement, par ma sœur, j'étais à la JCR. Mais vite, on a été un noyau. Le fait d'être dans des classes post-bac nous donnait une autorité et des possibilités d'action. On m'a demandé à moi d'aller négocier avec le proviseur du lycée. Il était tout ému quand il m'a remis les clés de l'établissement. Et donc, on a organisé une occupation du lycée jour et nuit, avec des équipes de surveillance, de garde la nuit. Et dans la journée, à l'occasion, on allait participer à des manifestations ou des coordinations étudiants-lycéens, voire étudiants-lycéens-ouvriers, ici ou là. Mai 68 est un moment où ça bascule pour Gérard, dont la trajectoire croise celle des événements en pleine indétermination de la jeunesse. 1968, je l'ai vécu comme une période heureuse, très épanouissante, une vraie rupture, une prise de liberté. Et puis surtout, ce qui a vraiment été le plus marquant, c'est que tout d'un coup, je me disais, là, je sais ce que je veux faire, enfin, je vais donner un sens à ma vie. Parce que jusque-là, j'avais quand même l'impression d'avoir été portée. Je suivais ce qu'on me disait. Passe ton bac d'abord, va en prépa d'abord, voilà. Et puis après, ça t'ouvrira des portes. Et après, j'arrive à Paris. Je ne voulais pas devenir ingénieur. J'avais pratiquement tout mon temps libre. En tout cas, je souhaitais l'avoir. J'avais pas un bagage politique très lourd, mais c'était le cas de beaucoup de jeunes militants arrivés à la Ligue. Donc voilà. J'étais disponible et on n'avait qu'une idée à l'époque, c'était de foncer pour préparer cette révolution qui s'annonçait. Gérard est reçu à l'école centrale, qu'il intègre à la rentrée 68. Mais le militantisme à la LCR occupe dorénavant ses journées. Il est élu à la direction de la toute jeune organisation en 1969, en charge du travail international. Avant de devenir permanent politique du parti en 72, il le restera plus de 10 ans. Le cas de Gérard est emblématique.
Oui, c'est ça. Le cas de Gérard est emblématique. Il est emblématique de transformations qui ont été tout à fait conséquentes dans sa vie, puisqu'il est devenu permanent d'une organisation politique. Et une organisation d'extrême gauche, bien sûr, qui continue à vivre dans les années qui suivent. Donc, c'est l'exemple de mai 68 qui donne un sens à sa vie, comme à celle de bien d'autres autour de lui. Et la crise apporte, dans ce qu'elle a, une réponse tout à fait politique, mais aussi familiale, aux questions existentielles. Qui suis-je? Que faire? Que les jeunes se posent à l'âge de l'indétermination des possibles. C'est aussi ce dont il a hérité familialement, bien sûr, les dispositions au militantisme, qui l'ont orienté vers ses choix. Un peu « the right person at the right moment ». Mais les infléchissements biographiques qu'on retrouve en mai 68 résultent très souvent de la participation au mouvement en tant que tel. Et donc les infléchissements biographiques sont vraiment conséquents. On va retrouver ça dans de nombreux témoignages, puisque en fait, il s'agit pour un certain nombre de jeunes qui participent aux événements de libération et de transgression qui auraient été impensables sans justement cette survente, enfin disons ces événements qu'ils sont en train de vivre. Et en particulier, on assiste dans leur vie, et c'est ce qu'ils disent, à une véritable mise en suspens des rapports sociaux routiniers, amplifiés par la généralisation de la grève, qui rend possible de véritables transgressions qui sont peut-être symboliques, mais qui vont permettre le dévoilement et la remise en cause de frontières également familiales et sociales. Une enquêtée insiste ainsi sur la communication entre les gens, du fait que tous les repères sociaux habituels sont remis en question. Et donc, on retrouve, par exemple, dans le discours de Geneviève, cette idée de quelque chose de totalement différent. Écoutons Geneviève.
Comment décrire 1968 ? La fête constante, oui, ne serait-ce que parce qu'il y avait carrément des décalages horaires. Quand on manifeste le soir et qu'on est la nuit à la Sorbonne, et après je ne sais où, il y a tout le côté fatigue physique qui joue aussi. C'est une impression de fête, on a l'impression de liberté, parce que les gens se causaient effectivement dans la rue et marchaient, car il n'y avait quasiment pas de bagnole. Les gens n'étaient pas enfermés dans leur tête, comme vous les voyez aujourd'hui, dehors ou dans le métro. Ça avait une impression de ouf. On respire, on souffle, c'est la liberté retrouvée. Un peu comme l'an 01. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Voilà, c'est ça. À la fois l'impression de liberté, de fraternité entre nous tous, de puissance et de pouvoir de la rue. Ça, c'est extraordinaire comme impression.
Alors, cette impression de liberté et d'ouverture sur le monde, on va la retrouver avec la musique de John Baez, qui est écoutée à ce moment-là, dans le monde entier précisément, en France, aux États-Unis pour le Freedom Summer et dans bien d'autres pays. Or being stolen by bandits, I must follow the sun. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. The jack and the queen have forsake the courtyard. 52 gypsies now file past the guards. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina, the sky is falling. I'll see you in a while. See the cross-eyed pirate sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the neighbors, they clap and they cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky's changing color and I must leave fast. King Kong, little elves, on the rooftop they dance. Valentino type tangos while the makeup man's hands shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. But farewell, Angelina, the sky is embarrassed and I must be gone. Machine guns are roaring and the puppets heave rocks. And fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it. But farewell, Angelina, the sky is erupting. I must go where it's quiet.
John Baez dit que le ciel se couvre, peut-être qu'en mai il s'est éclairci pour un certain nombre. En tout cas, John Baez, elle est restée fidèle à ses engagements, donc on va voir que c'est le cas d'un certain nombre de ceux qui ont participé à mai 68. Avant de voir justement leur destinée, revenons brièvement sur le charisme de certaines personnalités qui s'affirment à cette époque. On n'a pas parlé de Danny Comendit jusqu'à présent. Bon, c'est vrai que c'était le leader du mouvement du 22 mars. Une étudiante qui vit mai 68, pas très loin, dit de lui, C'était incroyable le charisme de cet homme. On allait l'écouter à la Sorbonne et à chaque fois, on avait l'impression qu'il disait exactement ce que l'on ressentait, juste avec les mots qu'il fallait, comme s'il devançait même ce qu'on aurait aimé dire. Il fallait voir l'euphorie que ça provoquait, ce bonheur, cette impression qu'on se comprenait vraiment, qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on avait une vraie connivence. Et c'est ce qui rendait l'atmosphère tellement particulière. Donc, l'attente de la Révolution, l'espoir de participer à la Révolution. Et puis, finalement, juin 1968, c'est pas tout à fait ça. Juin 1968, c'est l'euphorie collective qui retombe, la crise politique qui passe. Et au contraire, l'univers social qui se resectorise, qui se remet en place. Donc, que se passe-t-il après et surtout que se passe-t-il dans la vie de ceux qui ont vécu mai, lorsque, à partir de juin, tout se referme. Tout se referme, c'est à voir. Par exemple, l'un des enquêtés, Pierre, dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Après avoir eu ce sentiment que tout se débloquait, que tout devenait possible », on n'accepte pas que la porte se referme. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir comme avant. Alors, on met le pied dans l'entrebâillement et cette porte, on refuse justement qu'elle se referme. Alors, qu'est-ce que font les militants? Qu'est-ce que font les jeunes de mai 68? Que deviennent-ils sur le moyen et le long terme? Encore une fois, on va essayer de voir les témoignages d'un certain nombre d'entre eux pour étudier un petit peu leur entrée en politique et la façon dont ils vivent la continuation de leur action. Ce qui est intéressant de voir pour Julie Pagis, c'est comment l'événement mai 68 rebat les cartes des destinées sociales. Et au fond, comment redistribue-t-il le futur des acteurs? Est-ce qu'ils confirment leur état antérieur ou au contraire, est-ce qu'ils mettent en place un certain nombre de divergences? Julie Pagis procède à la comparaison des devenirs politiques, professionnels et familiaux des enquêtés. En fait, un bon nombre d'entre eux continuent à militer, il faut savoir dans quelles organisations politiques. Et ensuite, étant donné qu'ils se revendiquent révolutionnaires, comment négocient-ils leur sortie de rôle au moment de l'engagement dans une extrême gauche qui va bientôt se dévaloriser sur un plan national? Comment concilient-ils aussi la sortie de la jeunesse alors que, justement, ils ont passé ce temps d'indétermination professionnelle ou familiale dont on parlait tout à l'heure? Les enquêtés, globalement, enfin la première réponse que donne Julie Pagis, c'est que les enquêtés restent beaucoup plus militants et beaucoup plus politisés que la population moyenne. Elle parle du fait que 70 à 80% des enquêtés restent des militants dans les années qui suivent mai 68, alors que dans l'ensemble de la population, sur le plan syndical, par exemple, seuls 40% environ de la population participe à l'engagement. De façon générale, la trajectoire professionnelle de ceux qui ont vécu mai 68 va se trouver impactée par ce qu'ils ont vécu. Dans l'enquête, Julie Pagès note que pratiquement 60% des personnes qui ont vécu mai 68 ont ressenti l'impact de ce qu'ils ont vécu, alors que c'est à peine le cas de 30 à 40% de la population qui ne s'est pas investie dans les événements. Donc, on pourrait dire, enfin, c'est ce qu'elle souhaite faire dans les pages qui suivent, elle va étudier, en fait, la façon dont les événements impacte véritablement le devenir de ceux qui se sont investis dans mai 68. Donc, les empreintes générationnelles qui se situent bien sûr dans l'immédiate après mai 68, mais qui peuvent encore se situer bien des années plus tard.
Dans une perspective classique, on peut comparer les devenirs des anciens militants à ceux de leurs contemporains non engagés. Et par exemple, au moment de l'enquête, entre 2004 et 2006, il y a encore 40% des enquêtés qui déclarent s'investir dans des mouvements politiques. Et ce chiffre s'élève à 80% quand on parle simplement de gens qui s'intéressent à la politique. C'est évidemment beaucoup plus fort que le pourcentage de l'ensemble de la population comparable. De même, près de 40 ans après mai 68, les personnes enquêtées se distinguent toujours en termes d'opinion par rapport à la population globale, puisqu'ils se distinguent par leurs opinions concernant l'antilibéralisme économique, concernant aussi le rejet des politiques sécuritaires ou le libéralisme de façon générale, économique on l'a vu, mais aussi culturel. La trajectoire des 68ards, enfin les trajectoires des 68ards que Julie Pagis a pu analyser, représente non pas une génération unanimement opportuniste, comme elle a été analysée dans certains supports, mais au contraire, des évolutions distinctes les unes des autres, mais qui, dans pratiquement tous les cas, ont travaillé à ne pas reproduire l'ordre social, ont travaillé à remettre en cause ce qui avait été au cœur de mai 68. Donc, Julie Pagis recourt aux statistiques pour montrer ce qui a été modifié dans la vie des participants. Et comme on l'a vu précédemment, elle recourt aussi aux interviews pour leur demander quelles ont été leurs inflexions biographiques au fur et à mesure que les années ont passé. En fait, il y a eu, dans bien des cas, à la fois un décloisonnement social dans le sens du déclassement ou dans le sens de l'ascension sociale. Et ce décloisonnement ou ces changements d'appartenance, ils se font donc ou dans le sens du déclassement ou dans le sens de l'ascension. Un certain nombre d'enquêtés qui ont répondu de façon très exhaustive aux questions de Julie Pagis vont nous permettre de situer un peu mieux les exemples personnels. Et nous allons donc redonner la parole aux témoignages personnels.
Né en 1947, Paul est fils d'instituteur et d'une employée, tous deux militants communistes, anciens résistants, athées. Nous avons vu au chapitre 2 qu'en 1968, il est étudiant en maîtrise d'histoire, membre de la direction de l'UNEF à Grenoble et militant du JCML. À la rentrée 1968, Paul rejoint l'AGP. Il est nommé maître auxiliaire dans un collège où il enseigne une année, 68-69, mais il éprouve assez vite le désagréable sentiment d'être revenu en arrière par rapport à 1968 et par s'établir. J'ai fait du stop avec mon sac à dos et au panneau Lyon, il y avait une affiche où il demandait un pompiste chez Carrefour. J'ai pris le poste parce que le problème, c'était d'avoir des certificats de travail à montrer pour aller dans des endroits plus intéressants. Je me suis installée à Bron, dans un HLM, pour que ma femme rapplique. Pourquoi cette décision de s'établir ? Pour moi, l'établissement, c'était aller là où ça se passe. Donc ma conviction profonde était que ça se passerait là. Il fallait continuer 1968 dans tous les sens, que ce soit dans les luttes radicales des OS ou dans les autres luttes. La nécessaire dissimulation de leur passé universitaire pour déjouer la suspicion des employeurs et réussir leur entrée dans la carrière d'établi, Paul précise ainsi. On s'inventait une histoire comme quoi on était fils de commerçants ou autres, qu'on n'avait pas de cursus entre 14 et 20 ans, parce qu'on avait travaillé pour ses parents dans une boutique ou un garage. La nécessaire occultation de son passé auprès des employeurs, mais également des collègues de travail, éclaire également en creux l'inenvisageable, l'impossible social que représentent ces attitudes de transgression des frontières de classe. Dissimuler aux autres ce passé permet de s'intégrer au milieu social nouvellement rejoint sans être taxé de folie, et devient une condition pour habiter ce nouveau rôle. De 1969 à 1972, Paul travaille comme intérimaire dans diverses entreprises, mais peine à se faire embaucher en CDI. Militant de la GP lyonnaise, il participe également au journal La Cause du Peuple. Paul est arrêté en 1970 lors d'une action militante et écope de 3 mois de prison. À sa sortie de prison, il rentre à Grenoble rejoindre son épouse, enceinte de leur deuxième fille. Il y travaille quelques mois en intérim avec un succès politique restreint. Il est de plus en plus difficile de s'établir à cette période. J'ai essayé assez longtemps, mais bon, mon établissement est un échec complet. Enfin, sur les critères de l'époque, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas développé de pratiques militantes, de groupes militants là où j'ai travaillé. À chaque fois, j'ai été rattrapée par les flics ou par la CGT. Très très vite. Une fois à Grenoble, j'étais dans une assez grosse usine depuis 3 jours que la CGT distribuait un tract avec mon nom sur le verso. La direction m'a viré aussitôt. Paul se prépare peu à peu après de sa femme. Paul se sépare peu de temps après de sa femme, sujette à des problèmes psychiatriques. Il part tenter sa chance à Sochaux en 1971, où il s'installe dans un HLM avec une nouvelle compagne surveillante dans un lycée. Embauché aux usines Peugeot, il a, enfin, le sentiment de pouvoir agir politiquement. « J'étais au pot d'échappement, c'était la chaîne, avec des cadences et tout ça, donc la révolte était latente, toujours. C'était les bons côtés du taylorisme. C'est le truc où la négociation capital-travail est en direct. Donc, bien sûr, dans les discussions qu'on avait au pause-repas, ça discutait vite conditions de travail, etc. » Les origines populaires de Paul expliquent sans doute que sa critique de la bourgeoisie ne passe pas ou moins par le rejet de pratiques culturelles, ni par une attitude populiste d'idéalisation du mode de vie et de pensée populaire. Comme l'attestent ces représentations dissonantes du travail d'établi.
Oui, en fait, les représentations dissonantes, c'est le fait que Paul, on l'a vu, a finalement un ressenti négatif parce qu'il n'arrive pas à mobiliser autour de lui. N'oublions pas qu'il est à l'AGP et qu'il voudrait faire passer le message maoïste, alors que bien sûr, il se trouve face à des ouvriers qui, quand ils contestent ou quand ils sont syndiqués, le sont plutôt à la CGT, que la CGT n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds par les Mao. Donc, le problème de Paul, c'est que, bien qu'établi, il n'arrive pas véritablement à constituer de nouveaux noyaux d'engagement autour de lui. Il a même une expérience assez négative dans le cas d'un atelier dont il va nous faire part.
J'ai fait 1 mois à Fiat, à Grenoble. J'étais au travail de nuit à rechapper certains pneus. C'était assez pénible et j'étais coincée avec tous les prolos divorcés de l'usine qui faisaient de travail de nuit pour gagner 20% de plus. Pour le coup, c'était un secteur durablement insupportable de la classe ouvrière, c'est-à-dire une collection de prolos de 30-40 ans qui passaient leur temps à dénigrer les femmes qui les avaient virées. Vous imaginez les blagues machistes qu'on peut accumuler en 8 heures de travail de nuit. À un moment, j'en pouvais plus.
Donc, voilà, il se retrouve dans un milieu qui, effectivement, n'est pas le sien. Et dans un milieu qui, en plus, avec ce machisme rampant, ne lui est pas sympathique. Donc, il a vraiment du mal à s'y retrouver. Et il a vraiment du mal aussi à s'insérer politiquement. Ce n'est pas du tout ce que ressent une autre établie, Colette. Colette qui vient donc de mai 68, elle s'établit aussi en usine. Et elle, au contraire, nous fait partager une expérience tout à fait positive. Le travail politique sur la chaîne, c'est formidable. Moi, j'étais qu'avec des filles. Je mettais les petites pièces sur des antivols. Enfin bon, on fabriquait des vélos. Et ça va très très vite, la chaîne. Mais l'oppression est telle que finalement, c'est vraiment facile de travailler avec le prolétariat et de montrer les problèmes qui se posent dans l'organisation du travail. Je n'avais pas de mérite du tout. Mes collègues, elles demandaient que ça. Et la répression des petits chefs qui draguent ou qui violent à moitié les filles quand elles se rhabillent, bah, il suffit d'être à l'écoute, il suffit de partager la condition féminine. C'était uniquement ça, le travail politique. C'était donné, quoi. J'ai découvert des hommes et des femmes extraordinaires. On a lié des amitiés, des solidarités qu'on ne rencontre pas ailleurs. Cette capacité de révolte qu'on avait vécue en 68, on l'a retrouvée après dans un investissement total et dans la cause. Et cela, on a essayé de le maintenir toutes les années qui ont suivi. Donc en fait, dans mon cas, c'est une expérience totale, nécessaire, et qui n'existe pas vraiment en dehors du milieu ouvrier. Donc dans mon cas, c'est vraiment un recommencement radical. Voilà, l'expérience d'établi bien différent, l'expérience de la prison aussi pour certains, puisque après la dissolution officielle de l'AGP en mai 70, ben, un certain nombre de militants sont arrêtés. L'institution totale que représente la prison conforte tout d'abord le caractère extraordinaire de l'établissement. La perte des droits civiques qui l'accompagne accentue par ailleurs la rupture avec l'identité sociale antérieure. Et ça, malheureusement, ça ferme les portes à un certain nombre de jeunes qui ont voulu s'établir. Parce que, par exemple, Colette aussi le dit. J'ai été condamnée à 15 jours, mais avec la déchéance des droits civiques et l'interdiction du territoire dans le Doubs. Alors, quand on a 22-23 ans, ben, à ce moment-là, la politique, ça paraît quasi fini, quoi. Bon, j'avais tué personne, mais j'étais victime d'une répression, c'était absolument effroyable. Donc, je suis partie à la campagne. Et là, quand même, quand je me suis retrouvée avec des militants paysans, ça a été différent. Voilà, donc ici, l'expérience de deux établis qui, en effet, dans un cas, peinent à s'insérer et dans l'autre, au contraire, s'insèrent très bien. C'est clair que ça peut être ressenti de façon différente. Le fait de se retourner vers d'autres militantismes, c'est quand même aussi ce que vit Paul.
Paul quitte Sochaux pour Belfort à la fin de l'année 72, tente à nouveau de se faire embaucher en usine avant de participer à un mouvement de soutien à la sexualité libre des lycéens. Cet engagement lui vaut des sanctions de la part de la gauche prolétarienne qui juge cet engagement petit bourgeois. Paul reproche en retour à l'organisation de tourner le dos à toutes les nouvelles luttes, féministes, jeunesse et autres, desquelles il se rapproche comme compagnon de route, se rendant sur le plateau du Larzac ou encore à Besançon en soutien aux ouvriers de l'IP.
Oui, le Larzac ou l'IP, c'est effectivement des choix qui ont été faits par bien des militants à ce moment-là.
L'usure des espoirs révolutionnaires face à une révolution qui se fait attendre, la nécessité de reclassement social ont ainsi raison de son engagement, comme celui de nombreux autres établis. De retour à Paris, Paul est mis en contact avec Robert Linhart par un ami militant et travaille quelque temps avec celui-ci sur une enquête de sociologie du travail. Mais devant l'absence de perspectives stables dans ce secteur et grâce à l'intermédiaire d'un ex-camarade, Paul entre à Libération. Cette opportunité lui permet de concilier ses aspirations à perpétuer mai 68 tout en se reclassant après des années d'établissement. À cette époque, à l'IB, c'était on dissout l'AGP, mais on garde la NRP d'un côté et Libération de l'autre, les deux extrêmes. C'était l'idée que pour rester à l'affût d'une suite, d'une refondation révolutionnaire quelconque, il fallait avoir un organe de débat, de contact avec un public. Vous vous revendiquez donc toujours révolutionnaire ? Oui et non, parce que je commence à m'impliquer énormément professionnellement. L'IB, c'est une institution en expansion où l'on peut faire plein de choses. C'est une chance extraordinaire pour se réaliser, une nouvelle forme d'expérience totale.
Oui, donc en fait, un reclassement qui est aussi une forme de militantisme, puisque en l'occurrence, le fait de travailler à l'IB pour Paul, c'est de nouveau une prise de parole différente, bien sûr, mais une volonté d'ouverture qui va déboucher sur un type de militantisme différent. On a vu le destin de deux établis, on a vu qu'ils s'étaient réorientés après leur établissement. Julie Pagis nous donne aussi un exemple complètement différent, un exemple d'ascension sociale. C'est celui de Gilles qui travaille au départ au Tripostal et qui, peu à peu, par le militantisme, par les rencontres, va poursuivre sa formation grâce à un acte militant, une position militante pendant mai 68 à l'UJCML. Il rencontre de nombreux camarades venus d'autres horizons sociaux. Il rencontre l'amour et surtout, il va commencer des études universitaires qu'il n'avait jamais engagées avec l'expérience typiquement 68arde de l'université de Vincennes. Puisque, je vous le rappelle, l'université de Vincennes permet à l'époque à des personnes qui n'ont pas le baccalauréat de pouvoir entreprendre des études universitaires. Vincennes représente ainsi un lien singulier où se croisent des trajectoires qui nous intéressent puisqu'il y a à la fois les diplômés qui viennent y donner des cours et au contraire ceux qui n'ont pas de diplôme et qui peuvent, à l'université de Vincennes, suivre des cours. L'université de Vincennes a fonctionné un temps comme un espace de synthèse possible entre militantisme, études universitaires et activités professionnelles. Et même si elle n'a pas vécu très longtemps, elle s'est réformée, elle a débouché sur d'autres pratiques universitaires et elle a permis à bien des militants de redémarrer d'autres carrières. Gilles, dont on a vu très brièvement l'expérience, en fait, il va devenir maître auxiliaire dans l'éducation nationale. Il va ensuite passer le CAPES et connaître une véritable intégration grâce à cette ouverture de l'université aux non-bacheliers que représentait donc la fac de Vincennes. Et puis, militer sur d'autres plans, c'est aussi ce que Julie Pagis nous délivre comme message, puisqu'elle nous fait part de l'expérience d'autres jeunes pour qui le militantisme va passer par l'éducation populaire. Il y a dans les deux sens, à la fois du déclassement et de l'ascension sociale, un véritable terrain où les militants se retrouvent. C'est la révolution par l'éducation populaire. Julie Pagis nous donne, là encore, à écouter des témoignages. On va être un petit peu pris par le temps et on ne va pas pouvoir véritablement ouvrir le micro à ces témoignages. Mais je voudrais, avant de conclure, dire qu'il y a une véritable richesse dans cet ouvrage qu'on a essayé de vous faire découvrir. Une richesse qui est liée justement à tous ces témoignages qui ont été donnés avec une ouverture totale par des personnes qui maintenant, bien sûr, commencent à prendre de l'âge, mais qui n'ont pas abandonné leur activité d'engagement, qui n'ont pas abandonné leur ouverture vers le combat. Et je vous invite tout à fait à faire de même ou à aller retrouver dans Mai 68, un pavé dans leur histoire, les conséquences sur les générations futures que Julie Pagis nous fait découvrir dans la fin de son livre. Alors, à bientôt et à d'autres aventures. Malaika,